1, 2, 3, oui, c'est bon. Donc, Hubert Picard, vous publiez votre deuxième ouvrage, votre deuxième livre, OP3 Road. Et l'histoire d'OP3 Road est quand même très forte, je dirais même très, très, très violente. Racontez-nous dans quelles conditions vous avez fait ce reportage.
Donc j'étais parti en Irak, j'étais revenu d'Israël après plusieurs années d'activité dans ce pays ou dans les territoires palestiniens, et j'avais éprouvé le besoin de changer d'endroit. Donc j'ai rencontré à Paris un photographe qui revenait d'Irak et qui m'a conseillé d'y aller. Je pensais que ce serait très très difficile d'accéder à ce pays en suivant l'armée américaine, et puis finalement la demande a été faite et ça a été relativement facile. Donc une fois l'accréditation en poche, je suis passé de nouveau par Israël, par Tel Aviv. J'ai pris un bus jusqu'à Jérusalem, et à Jérusalem j'ai pris un taxi arabe qui m'a amené jusqu'à la frontière jordanienne, parce qu'on ne pouvait pas accéder à l'Irak librement, il fallait passer par un avion militaire américain qu'on prenait soit à Kuwait City, soit à Amman. En fait, les aéroports militaires américains se situaient à Kuwait et en Jordanie. C'était moins coûteux pour moi si je prenais un avion en dehors des périodes touristiques, de passer par Tel Aviv. Je crois que j'ai eu le billet à l'époque pour 200 euros aller-retour en passant par je ne sais plus très bien quelle compagnie, Cyprus Airways, je ne sais plus très bien par qui, en prenant un transit en plus. Et donc, ensuite, de prendre bus et taxi arabe pour rallier le checkpoint d'Allenby. Et à partir d'Allenby, taxi collectif, on était 4 ou 5 dans la voiture, direction Amman. Taxi coûtait $40, par personne, ça faisait $10. Donc, ça a été tout un périple. Mais ça a été beaucoup plus économique que de prendre un billet sur Royal Jordan en faisant Paris-Amman. Là, ça aurait été dans les 600-700 euros.
Vous aviez une commande ou vous étiez
freelance? J'étais totalement en freelance, mais j'avais envie d'aller vers cette aventure. Et je ne le regrette pas. C'est comme ça que ça s'est enclenché.
Et donc, vous allez à Bagdad d'abord, non?
Oui, on atterrit au Bayap. Bagdad International Airport. Et c'est d'ailleurs assez original, parce que quand on m'a parlé d'un atterrissage à Bagdad, je n'imaginais pas que Bagdad était que le BIAP, donc le Bagdad International Airport, était devenu un aéroport militaire américain. Moi, je croyais que c'était un aéroport international, et je commençais à me dire, mais je vais me faire enlever, je vais me faire couper la tête. Donc, je craignais d'atterrir dans une jungle. Et en fait, effectivement, on passait par Bagdad, et après, on était donc envoyé. On passait par Bagdad, ensuite, on allait dans un camp qui s'appelait le camp Striker Camp. Et à Striker, on passait en général la journée et la nuit, et c'est dans le milieu de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, qu'il y avait des convois qui vous conduisaient jusqu'au Combined Press Information Center, CPIC, et à partir du CPIC, on attendait qu'un hélicoptère puisse aller vers la région qu'on voulait rejoindre. Voilà.
Donc c'était Fallujah.
Et là, en l'occurrence, ça a été Fallujah. Voilà. Et ça s'est fait donc par hélicoptère. Ça n'était pas très rapide. Hein. Ça pouvait prendre 3, 4 ou 5 jours avant de partir.
Et ensuite, vous partez donc dans ce poste avancé. Ouais.
Karma.
Karma, ouais, voilà.
Chercher le nom. Voilà. Là, par contre, je suis parti le jour même. Le soir même, en fait. Je suis arrivé le matin à Fallujah. J'ai rallié le camp qu'on appelait camp Geronimo, le cri de guerre des parachutistes américains. Et là, donc, j'ai été reçu par l'adjoint du chef de corps et qui a décidé de m'envoyer à Karma. Et le soir même, je partais sur Karma.
Et vous partez le jour où, d'ailleurs, un soldat est tué.
Voilà. C'est le jour où le sergent Baum a été snipé. Alors, bon, malchance, parce que les snipers irakiens sont connus pour être relativement peu performants. Au-delà de 250 mètres, il ne faut pas espérer qu'ils atteignent leur cible. Et en l'occurrence, il n'était pas le soldat qui avait été ciblé. Le soldat ciblé avait été le premier sergent Tom Kimbe, le sniper de l'unité. Et les Irakiens étaient tellement mauvais que lorsqu'ils ont tiré, ils l'ont raté lui, mais ils ont eu celui qui était à côté, c'est-à-dire Baum. D'où le traumatisme qu'a développé Campbell au retour d'Irak, cette culpabilité d'avoir été responsable de la mort de son spotter, parce qu'en fait d'ailleurs Baum était son spotter, c'est celui qui suit toujours le sniper qui est là pour faire les calculs de télémétrie, ça. Et il a culpabilisé énormément de la mort de son ami d'abord avant d'être son compagnon d'armes.
Oui, on va revenir sur les problèmes, sur les traumatismes, mais vous avez passé combien de temps
eux sont arrivés en janvier et sont repartis en fin juin, et moi j'ai passé un peu plus de 2 mois avec eux sur ce camp. Par contre, j'ai passé 8 mois en Irak, et je les ai retrouvés en octobre pour une prochaine session dans un camp qui s'appelait Kalsou, à côté de Bagdad, par contre.
Donc pendant 2 mois, vous êtes dans ce camp à tourner avec les GI en permanence.
Voilà, dans ce camp. Oui, sinon, j'ai encore fait 6 autres mois avec eux et d'autres. Oui.
Et donc, l'ambiance est curieuse. Enfin, elle est, je ne sais pas comment la qualifier. Elle n'est pas lourde, mais elle est tendue. C'est constamment tendu comme ambiance, non?
Ce n'est pas une tension comme lorsqu'on se trouve dans un groupe et qu'on sent qu'il y a des antagonismes qui créent cette tension, mais c'est une tension liée aux facteurs extérieurs, donc c'est-à-dire aux insurgés. On ne le ressent pas forcément quand on est entre nous à l'intérieur du camp, quand on se sent en sécurité. Alors évidemment, le camp pouvait toujours être ciblé par des tirs de mortier. Il y a d'ailleurs eu un soldat qui est mort au cours d'une explosion d'un mortier vraiment dans le QG, hein. Ça s'est passé par le toit, il l'a pris sur la tête, il est mort. Il y a eu 3 morts à Karma au sein du 3509e. Il y a eu le sergent Kurtz qui est mort donc sur une mine, dans son blindé, dans son Humvee. Il y a eu ce soldat, non, je ne me souviens plus le nom, mais j'en parle dans le livre. Et il y a eu le sergent Baum. Je tiens à préciser que la mort de Kurtz, qui est arrivée en février 2011, donc avant que moi je ne vienne à Karma, a été le cas qui a obligé, enfin obligé entre guillemets, qui a fait que l'armée américaine, l'autorité américaine a décidé de renforcer le blindage des portes de Hummer. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément lié à ce soldat ou à ce sergent, mais en tous les cas, ça a été le cas qui a fait qu'après, le blindage a été renforcé.
Et dès que vous sortez du camp, alors là, par contre, on a l'impression que c'est la peur, quoi.
Je pense pas que les soldats avaient peur. C'est pas une peur qui se traduit comme lorsqu'on a conscience qu'il va se passer quelque chose, qu'on sait qu'il va se passer quelque chose et qu'on n'est pas forcément armé pour y répondre. Je pense pas d'ailleurs qu'il y avait une réelle peur dans les esprits. Ils étaient trop concentrés dans leur mission pour être effrayés par le seul fait de sortir. Maintenant, certaines situations périlleuses peuvent faire que l'individu a peur, mais il n'y avait pas la peur d'avoir peur. Donc quand ils sortaient du camp et qu'ils allaient en mission, tant qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, je crois que les esprits étaient assez libérés. Et quand il y avait ensuite effectivement des agressions, des affrontements ou une mine, ben là, il y avait la peur, bien sûr, que tout individu peut éprouver. Mais vous savez, c'est un peu comme pour un comédien. Ça n'est pas la peur qui paralyse, c'est une peur, c'est comme un trac d'avant entrée en scène. Et une fois qu'on est dans le bain du jeu, les réactions qui s'imposent prennent le dessus. Si la peur est paralysante, là c'est catastrophique. Et le gars ne peut pas sortir, on le laisse au camp dans ce cas-là, et il sera concentré sur les travaux ménagers parce qu'il est un danger pour le groupe. Donc ce n'est pas non plus une peur comme on l'imagine qui vous prend à la gorge et qui vous ne relâche plus. C'est une peur de quelques instants, le temps de se mettre en action.
Oui, il y a d'ailleurs ce soldat qui a peur avant de partir et qui ensuite se conduit d'une façon un peu héroïque, enfin héroïque.
Alors lui, c'était une peur, c'est la peur d'avoir peur. Il ne s'est rien passé, il était aux États-Unis et quand j'ai retrouvé Tom, alors cette anecdote, moi je l'ai apprise par Tom Campbell qui me l'a révélé quand je l'ai retrouvé bien des années plus tard, en 2011 en Afghanistan. Et justement, alors que j'étais en train d'écrire ce livre ou de préparer ce livre, je lui ai demandé de me rapporter d'autres anecdotes que celles que je connaissais ou que j'avais enregistrées ou écrites concernant Karma. Et l'anecdote de ce soldat qui a eu tellement peur qu'il a simulé des crises d'épilepsie, c'est tellement incroyable que je me suis même demandé s'il me dit la vérité, mais bon, pourquoi m'aurait-il menti? Et voilà, donc ça s'est effectivement passé comme cela. Et une fois qu'il s'est retrouvé sur place, vous savez, c'est quand vous êtes pendant 6 mois. D'ailleurs, un déplacement irakien, c'était un an, n'est-ce pas? 6 mois, ça a été Karma. Ils sont retournés ensuite 15 jours aux États-Unis pour passer 2 semaines de congé. Ensuite, ils sont retournés en Irak et ont été envoyés à côté de Bagdad dans le camp qui s'appelait Kalsou, du nom du premier sportif professionnel mort au Vietnam, John Kalsou. Donc, vous passez un an dans une unité avec des gars que vous côtoyez jour et nuit. C'est très difficile d'avoir d'emblée l'image d'un loser, d'un type faible. Vous vivez une année avec ça. Alors bien sûr, il n'y aura pas les excès qui peut y avoir dans les prisons, mais c'est dur, parce que vous faites quand même marcher dessus. Et ce type a essayé de redorer son blason lorsqu'il y a eu cette incroyable attaque du mois de janvier ou février, lorsque quelques centaines d'insurgés se sont attaqués au camp d'OP3. Mais j'ai pu constater d'ailleurs quand j'y étais qu'il n'a jamais plus réussi à faire que les autres le voient comme un soldat brave et courageux. On le voyait comme celui qu'il avait été avant de partir.
Et vous là-dedans, vous avez peur, c'est pas votre première mission, mais quand même, vous avez peur.
Oui, bien sûr, il y a des moments de peur, il y a des moments. C'est même pas forcément. La peur connaît différents niveaux. Il peut y avoir l'appréhension, il peut y avoir une sensation étrange, il peut y avoir. C'est pas toujours la peur de mourir. Il y a différents paliers. Je crois qu'effectivement, j'ai connu tous les paliers, mais je dois avouer que je ne me souviens pas avoir eu peur ou avoir eu la peur de mourir en Irak comme je l'ai eu une fois dans les territoires palestiniens, où là, j'ai cru que j'étais mort, vraiment. Et je me souviens que là, j'ai d'ailleurs dû uriner rapidement après ce qui s'était passé. Ça m'est jamais arrivé en Irak. Peut-être parce que je me sentais sécurisé aussi au contact des soldats. Je n'étais pas seul comme on l'était dans les territoires avec d'autres photographes. Et en général, on n'est pas forcément ensemble. On se voit sur place, on peut être sur la même zone de travail, mais on n'est pas liés les uns aux autres. Mais vous savez, suivre une unité comme celle-ci, ça vous fait vite sentir que vous êtes protégé.
C'est un livre qui fait quand même la part belle à l'intervention américaine. Vous avez pas l'air d'accord.
En tout cas, peut-être que c'est l'impression qu'on en a, mais je n'ai pas voulu écrire un livre et je le mets d'ailleurs en introduction, qui prenne position pour ou contre la guerre. Par contre, effectivement, j'ai très vite éprouvé une très forte sympathie pour les gens que je suivais. Et donc, de fait, je prends position pour eux en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que soldat. Ce qui n'est pas forcément une position qui défend l'idée de la guerre. Beaucoup de ces soldats se demandaient même, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et si on leur avait demandé leur opinion sur le fait que, comment dirais-je, leur opinion sur la guerre en Irak, être pour ou être contre, je ne sais pas. Peut-être que parmi eux, certains auraient dit, on n'a rien à y faire, ou il fallait pas la faire de cette façon-là. Je pense
Et
que c'est
comment voyaient-ils votre présence? Parce que eux, bon, ok, ils sont soldats, ils sont engagés, mais vous êtes là volontaire, à vos frais.
Exactement. Et je me souviens que lorsque je suis passé par Tel Aviv pour rallier la Jordanie, je me suis arrêté quelques jours dans une auberge de jeunesse. Et en sortant un soir dans un bar, j'ai rencontré un ancien marine qui avait connu Israël quand il avait travaillé comme soldat à l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, et puis qui revenait régulièrement. Et un soir que nous sommes sortis ensemble, je lui ai expliqué la raison de mon séjour à ce moment précis en Israël et mon désir donc de partir pour l'Irak au sein de l'armée. Et il m'a dit « You'll never be the man, tu ne seras jamais l'homme, but the embedded man, mais l'homme qui suit les soldats ». Bien sûr, je considérais que c'était évident et je ne l'ai pas contredit. Et j'ai gardé ça à l'esprit. Je me suis dit, je suis celui qui est embedded. Je ne suis pas l'un des leurs. Quand je suis arrivé à Kerma, je crois que dès les premiers regards, peut-être pas les tout premiers que j'ai croisés en arrivant dans le camp, mais quand j'étais présenté au sergent Bell, Staff Sergeant Bell, quand j'étais présenté à Tom Campbell, quand j'étais présenté à d'autres, et surtout Pina, Juan Pina, qui était un sergent, un staff sergeant d'origine mexicaine, c'était tellement chaleureux, c'était tellement ouvert, je me suis dit, ça ne peut pas être plus. Alors si ça, c'est simplement être embedded man, qu'est-ce que c'est être the man? Et dans les jours ou les semaines qui ont suivi, je me suis rendu compte que ces types m'avaient ouvert leurs bras et leur cœur autant qu'il est possible de le faire. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais the man. Et je me souviens même une fois avoir posé la question à Pinard en lui ayant raconté ce que m'avait donc dit ce soldat américain rencontré quelques jours plus tôt, à Tel Aviv. Et il m'a répondu que non, t'es avec nous, t'es comme un des nôtres, t'es notre frère. Par contre, s'ils avaient senti que je leur étais, distant, ou que je les jugeais, les critiquais, ou que je les mal jugeais, alors là, ça aurait été mis de côté, je serais resté une semaine et reparti. Ça s'est bien passé parce qu'il y a eu un lien. C'est comme deux personnes, ça s'est emboîté des deux côtés. Ils sont venus à moi, ou plutôt non, moi je suis venu à eux, et ils l'ont bien perçu et m'ont rendu la monnaie de ma pièce. Voilà.
Mais finalement, c'est peut-être ça que vous cherchez aussi, de trouver cette connivence avec les soldats. C'est peut-être ça aussi qui vous fait courir, non?
Les soldats ou d'autres, si c'était un groupe d'archéologues, ça aurait peut-être été la même chose. Mais c'est important, quand on est sur une zone comme celle-ci, c'est important le sentiment de fraternité. Finalement, c'est se sentir proche de l'homme. Voilà. Et on ne peut pas l'éprouver de la même façon dans une zone de paix ou même à Paris comme on l'éprouve là-bas. Il y a des liens qui sont si forts qu'on se sent bien. C'est bon de se sentir avoir envie de pleurer ou de rire avec quelqu'un dont on se sent proche.
La fraternité d'armes.
En l'occurrence, la fraternité d'armes, oui. Alors, j'aurais très bien pu la rechercher avec des sportifs ou des archéologues, comme je le disais, mais peut-être qu'on ne l'éprouve pas autant dans une zone de paix et avec ces gens-là qu'on peut l'éprouver avec les soldats sur une zone de guerre. Donc on en revient à la fraternité d'armes, oui.
Et c'est ça qui vous fait marcher?
C'est ce qui motive.
Oui.
Oui, c'est l'élément humain de la guerre. C'est pour ça que quelque part, quand on me dit tu aimes la guerre, non, mais j'aime l'élément, j'aime l'intensité, j'aime ce qu'il y a de bon dans la guerre, parallèlement à la guerre, c'est-à-dire dans ce qui est la petite histoire dans la grande histoire. La vie n'est pas forcément le paradis et la guerre n'est pas forcément l'enfer.